Bonjour. Mets-toi à ma place. C'est le titre que j'ai donné ce matin à ce message. Mets-toi à ma place. Ou sa forme plurielle, ou sa forme de vouvoiement, c'est peut-être une expression que vous utilisez souvent. Peut-être dans les situations un peu difficiles ou délicates que vous traversez et où vos proches ne semblent justement pas en comprendre la difficulté ou la délicatesse, on aimerait bien qu'ils se mettent un peu à notre place pour mieux comprendre ce que nous vivons, ce que nous ressentons, ou peut-être pour qu'ils puissent nous conseiller, nous aider, nous soulager, nous encourager dans cette situation. Mets-toi à ma place. Ou sous forme de question peut-être, tu ferais quoi à ma place? Si la situation est vraiment délicate ou difficile, la réponse instinctive de l'autre est peut-être de dire ou de penser, non merci, chacun ses problèmes. La réponse que l'on a souvent, c'est peut-être de ça, je n'ai pas du tout envie de me mettre à ta place. Et c'est peut-être justifié. On s'est peut-être mis dans un certain pétrin par sa propre faute, qu'on en subisse alors les conséquences, et l'autre dira peut-être alors, « Je ne suis pas à ta place, débrouille-toi maintenant, assume. » Je ne suis pas à ta place. Inversement, c'est peut-être ce que nous disons ou pensons face à la situation de notre voisin. Mets-toi à ma place. Il y a certainement un grand nombre de cas de figure auxquels vous pourrez penser, de situations. C'est un feuillet d'un calendrier avec des méditations quotidiennes qui m'a orienté vers le texte biblique de ce matin. Il y était rapporté une petite anecdote, somme toute très banale, vécue par l'auteur. Il était écrit « Un jour mon fils est rentré à la maison en courant et il s'est écrié d'une voix apeurée « Papa, il y a un chien grand comme ça qui veut me manger !» Tout en parlant, il a élevé la main bien au-dessus de sa tête pour décrire la taille du chien. Nous sommes sortis voir cet énorme animal, mais il devint rapidement certain que le chien cherchait plutôt un peu d'affection ou quelqu'un avec qui jouer. Sans trop réfléchir, j'ai dit à mon fils, « Tu sais que tu ne devrais pas exagérer, le chien n'est pas si grand. »« Pour toi, il est petit, » me répondit-il, « mais pour moi, il est énorme. Mets-toi à mon niveau et tu verras. Mets-toi à mon niveau et tu verras. » C'est ce que j'ai fait. Je me suis agenouillé pour être à sa taille et il avait raison. Mets-toi à mon niveau et tu verras. Qui mieux que le Seigneur Jésus, qui mieux que le Christ, peut se mettre à notre niveau, peut se mettre à notre place. Le sujet est bien vaste et il ne nous sera évidemment pas possible de l'aborder de façon exhaustive ce matin. Le point essentiel est assurément que Jésus-Christ a pris notre place sur la croix en subissant la condamnation à mort que nous devions subir à cause de nos péchés. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, verset 3. C'est la base de la foi chrétienne. Je le rappelle tellement c'est important, mais ce n'est pas cet aspect-là que nous aborderons ce matin. Aspect qui, je l'espère, est déjà une réalité concrète dans vos vies. Et cependant, si vous n'avez pas encore entendu parler, pas encore appris, compris ou accepté cette révélation, cette révolution, cette libération dans vos vies personnelles, et souhaiteriez en savoir plus, discutons-en dès l'issue du culte, moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. C'est tellement primordial que ça serait dommage, tellement dommage de remettre cette magnifique découverte à plus tard. Mais une fois découvert cela, comment le vit-on et comment le vit-on pleinement au quotidien ensuite? Comment cela change-t-il notre vie jour après jour? Comment cela nous change-t-il pour nous-mêmes? Et pour les autres, C'est la question à laquelle je veux nous encourager à juste commencer à réfléchir un peu ce matin, en regardant d'abord à l'exemple de Christ. À son exemple pris sous un angle particulier, celui de la tentation, du test, du péché. Il y aurait assurément bien d'autres façons de considérer le sujet, et vous le savez, les évangiles fourmillent de tellement d'exemples où Christ s'est mis au niveau de quelqu'un d'autre. Mais cet angle particulier est, je pense, le principal dont parlent les Écritures. Et il me semble important, car touchant chacun d'entre nous, même si ça peut être un sujet un peu dérangeant, assez personnel en fait. Mais c'est sûrement la racine de bon nombre de nos faiblesses. Sans être pour autant la cause systématique ni même principale de nos maladies ou épreuves, ne nous trompons pas non plus, je tiens à le préciser. Première partie, l'exemple de Christ. Et je vous invite à lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, qu'on projettera dans la version seconde, Hébreux chapitre 4, à partir du verset 12. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, Jésus était par nature un type super sympa et fin psychologue pour me comprendre. Ah non, ce n'est pas ce que dit le texte. Il était peut-être super sympa, enfin psychologue, je ne sais pas, mais la Bible, en tout cas, ne met pas du tout ses raisons en avant pour affirmer, expliquer qu'il peut vraiment compatir à nos faiblesses. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché, nous dit l'Épître aux Hébreux. Jésus s'est mis à notre niveau, s'est mis à notre place. Il connaît par expérience personnelle les luttes que nous affrontons parce qu'il a vécu comme nous, parce qu'il les a affrontées aussi. Dieu avait-il besoin de s'incarner pour découvrir et comprendre ce que pouvait être la vie d'un être humain, ses expériences, ses épreuves et ses victoires, ses doutes et ses joies ? Évidemment non, il n'en avait pas besoin. Cela ne lui était pas nécessaire. Le Créateur, l'Omniscient, savait déjà tout, connaissait déjà tout, complètement et parfaitement. Rien ne lui échappait, y compris tout ce qui comporte, inclut et implique la vie humaine sur terre. Bien sûr qu'il savait et qu'il sait déjà tout cela. Alors qu'il nous arrive souvent de faire ou de dire le contraire de ce que nous voudrions, alors que nous sommes souvent tiraillés en nous-mêmes, alors que nous avons souvent du mal à y voir clair dans nos sentiments et émotions, à faire le tri dans nos propres pensées, multiples, complexes, ambiguës ou contradictoires, Dieu, lui, arrive sans peine, même à pénétrer jusqu'au plus profond de notre être, jusqu'à partager, dissocier entre notre âme et notre esprit, entre nos jointures et nos moelles, jusqu'à parfaitement connaître et comprendre les sentiments et les pensées de nos cœurs. C'est ce que ce texte nous rappelle aussi. Oui, il est indéniablement notre Créateur, celui qui sait tout. Il est indéniablement notre Créateur, celui qui sait tout. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Jésus a-t-il vraiment été tenté comme nous en toutes choses ? Comment Dieu pourrait-il être tenté ? L'apôtre Jacques n'écrit-il pas que Dieu ne peut pas être tenté par le mal ? En Jacques 1,13. Et pourtant l'Épître aux Hébreux, c'est ce qu'elle nous dit dans plusieurs passages, que Jésus a été tenté. L'autre verset est en Hébreux 2,18, que je cite, « Car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Ces versets sont difficiles parce qu'ils impliquent deux choses, la nature de la tentation et la nature de Christ. Nous connaissons la première par expérience, la tentation, on ne connaît que trop. Quant à la seconde, en tant qu'être humain, nous avons peut-être, certainement même, du mal à saisir pleinement la nature de Christ. Et nous devons faire confiance aux déclarations de l'Écriture et à la révélation du Saint-Esprit pour la découvrir. Y a-t-il jamais eu en Jésus ce désir de péché qui rend la tentation si difficile pour nous ? Je reprends quelques idées et commentaires de l'Encyclopédie des difficultés bibliques d'Alfred Kuhn, qui nous rappelle que le mot grec pour tentation peut aussi se traduire par épreuve ou test. Les humains sont testés pour voir s'ils vont obéir à Dieu lorsque tout vacille. Nous sommes testés pour voir si nous resterons fidèles. Nous sommes testés pour voir si nos cœurs sont tout entiers pour Dieu ou si nous essayons de servir de maître. Jésus a connu toutes ces choses. Et on peut par exemple lire ce passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 1 à 10 qui rappellent quelques-unes des tentations que le Messie, que Jésus a dû affronter. Et je lis ce passage, Matthieu 4, versets 1 à 10. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et là, premièrement, le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, « ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Deuxièmement, le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Troisièmement, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus a alors fait face à trois tentations, parallèles à celle d'Israël dans le désert, parallèles à ce que nous expérimentons peut-être. Premièrement, un test en lien avec nos besoins physiques élémentaires, vitaux. Lorsque Jésus eut faim, se plaint-il et exigea-t-il de Dieu, comme Israël, de le nourrir ? Non, il a réussi l'épreuve en faisant confiance à Dieu, qui pouvait le préserver de la mort s'il le voulait. Aussi longtemps que Dieu lui commanderait de jeûner, il jeûnerait. Deuxièmement, un test en lien avec notre besoin de sécurité et de protection. Jésus pouvait-il être certain que Dieu prendrait soin de lui ? Pourquoi ne pas mettre Dieu à l'épreuve? Faire un test de Dieu pour voir s'il pouvait et voulait vraiment le protéger. La confiance de Jésus en Dieu était inébranlable. Pas besoin de faire un essai pour s'en assurer. Et troisièmement, un test en lien avec notre besoin de reconnaissance. Voir notre besoin d'un avenir, d'un horizon de promesse ou de certitude pour demain. Est-ce que Dieu lui donnerait vraiment les royaumes du monde? Est-ce que cela ne semblait pas impossible, puisque c'était Satan qui les gouvernait? Est-ce que la manière d'agir de Dieu n'était pas incertaine et difficile? Un petit compromis, c'était tout ce qu'il fallait pour gagner ces royaumes sans peine. Jésus, une fois de plus, a réussi le test, car il a refusé tout compromis avec le mal. Il a refusé tout compromis avec le mal. Aussi attrayant, et même aussi spirituel apparemment, qu'il puisse sembler être. C'est ainsi que Jésus a démontré qu'il était le vrai Fils de Dieu. Jésus a démontré qu'il était le vrai Fils de Dieu, au contraire d'Israël dans le désert qui avait failli. Ces trois exemples sont précisément les mêmes types de tentations auxquelles nous autres humains sommes aussi exposés. Test en lien avec nos besoins physiques élémentaires, test en lien avec notre besoin de sécurité et de protection, test en lien avec notre besoin de reconnaissance et de voir un peu l'avenir. Qu'est-ce que Jésus ? Est-ce que Jésus a connu toutes ces tentations auxquelles nous devons faire face ? Évidemment, il a pu difficilement expérimenter personnellement les tentations spécifiques, par exemple spécifiques aux gens mariés, il n'a pas été marié, aux personnes âgées, aux femmes, aux chômeurs en temps de récession économique ou à ceux de notre société technologique moderne. Cependant, la racine des différentes tentations rencontrées par les hommes et les femmes à travers le vaste spectre de l'expérience humaine, et encore aujourd'hui, il y a un certain nombre de tentations ou d'épreuves fondamentales. Et là, oui, Jésus, par expérience, savait et sait certainement comment y faire face et sortir vainqueur de la lutte. Mais qu'est-ce qui fait que nous échouons si souvent ? Qu'est-ce qui fait que nous échouons si souvent à ces tests ? Les apôtres Jacques et Paul montrent que la cause de notre échec se situe en nous, dans un principe que Jacques appelle les mauvais désirs ou les mauvaises impulsions. Et en ce sens, Dieu ne peut évidemment pas être tenté par le mal. Jamais il n'a de désir qu'il ne porte au mal. Mais Jésus était aussi homme, pleinement homme. Une partie de notre sanctification consiste à savoir quand nous pouvons dire oui à notre désir et quand il faut dire non. Jésus avait-il des désirs, et plus précisément des mauvais désirs? La réponse que nous donne l'Épître aux Hébreux est « Il a été tenté comme nous en toutes choses ». Jésus a certainement connu nombre d'épreuves, la faim, la soif, la fatigue, le désir sexuel, l'angoisse, la solitude et toutes les grandes catégories de ce que nous pouvons éprouver. Et il a certainement connu la tentation d'en sortir selon sa volonté personnelle propre, indépendante, ou de céder à cette tentation. Certaines de ces choses, il les a éprouvées jusqu'à l'extrême. Pensez à l'angoisse dans le jardin de Gethsémané, à la solitude sur la croix. Au regard de ces tests, et d'après les témoins du Nouveau Testament, Jésus était à cet égard pleinement humain. La seule exception que nous pouvons trouver en lui par rapport à l'expérience humaine est qu'il est resté sans péché. Pas simplement sympathique, pas simplement fin psychologue, il est resté sans péché. Différence fondamentale, absolument indispensable pour l'accomplissement du divin plan de salut. Dans Matthieu 4, il n'a jamais cédé à la tentation, mais a réussi toutes les épreuves. À Gethsémané, il a lutté de toutes ses forces, mais à la fin, il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». À la croix, il a sûrement ressenti les impulsions de la souffrance et de la colère lorsqu'il fut dépouillé de tous ses vêtements et cloué sur la croix, criant même « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais sa réponse finale fut « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mystère du Christ, pleinement Dieu et pleinement homme à la fois. Aurait-il pu pécher ? L'Écriture n'entre jamais dans de telles spéculations philosophiques, mais cela implique clairement que dans le fait de ne pas pécher, il y avait quelques vertus et que le test était bien réel pour lui aussi, ce qui implique la possibilité d'échouer. Mais ayons cette entière certitude sur la base du texte biblique, Jésus a été éprouvé comme nous le sommes, et il n'a pas ressenti les sentiments humains d'une manière moins intense que les autres humains. Jésus a subi la même épreuve que nous, et même une tentation d'une intensité bien plus grande, mais il a réussi le test sans péché. Cette situation le rend authentiquement proche de chacun, tout en le distinguant radicalement du reste de l'humanité. « En toute chose, nous assure l'Épître aux Hébreux, Jésus a donné la réponse qui fut la bonne aux yeux de Dieu. Il fut sans péché. » Ainsi, Jésus peut être touché par nos faiblesses et s'identifier à nous, nous soutenir, nous défendre, nous aider à réussir, parce qu'il a lui-même souffert lorsqu'il fut tenté ou éprouvé. Il est capable d'aider ceux qui sont tentés et éprouvés. Voilà le rappel majeur dans ce texte. Ainsi, Dieu n'est pas insensible aux épreuves et aux sentiments humains, tout au contraire. Il veut et il peut être pour nous réconfort et soutien. Oui, Jésus s'est mis à notre niveau, il s'est mis à notre place. Jésus s'est mis à notre niveau, il s'est mis à notre place. Mais comment cela se met-il en œuvre dans nos vies ? Une deuxième petite partie, mise en œuvre dans nos vies. Jésus, c'était l'empathie parfaite, bien plus absolue et aboutie que les gars sympas ou les fins psychologues, bien plus aboutie et absolue que les définitions des dictionnaires qui nous donnent de ce mot. Le dictionnaire Larousse est assez sobre, disant juste, « Empathie, faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. » D'autres définitions explicitent davantage. Par exemple, en psychologie, l'empathie est la capacité de ressentir les émotions, les sentiments, les expériences d'un autre, d'une autre personne ou de se mettre à sa place. Cette attitude nécessite un effort de compréhension intellectuelle d'autrui. Heureusement que Christ n'a pas seulement fait un effort de compréhension intellectuelle à notre égard. Bien heureusement. Empathie. Certainement quelque chose qui est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Et si comme moi, vous vous trouvez pas très doué en la matière, le point de départ est évidemment de regarder à Christ. Certes, Jésus s'est mis à notre niveau. Pour lui, c'était quand même chose facile. Il connaît tout, il sait tout, il voit tout, il comprend tout. On a rappelé qu'il est capable de sonder l'insondable, de dissocier l'indissociable, même entre âme et esprit, alors que l'être humain arrive à peine de simplement définir ces termes. Moi, j'ai même du mal à me comprendre moi-même. J'ai parfois du mal à faire le tri dans mes sentiments ou dans mes émotions. J'ai du mal à affermir mes pensées. J'ai du mal à toujours voir clair dans mes convictions. Et j'ai beaucoup plus de mal à ne pas pécher. Comment pourrais-je être un jour à la hauteur de ses attentes ? Comment pourrais-je jamais à son niveau ? Et comment pourrais-je jamais être à la hauteur dans l'empathie que je devrais, ou même que je voudrais, avoir vis-à-vis de mon prochain ? On se dit parfois cela, n'est-ce pas ? Mais on a alors tort, je pense, ou en tout cas on se trompe de perspective. On regarde alors l'exemple de Christ comme un modèle extérieur à imiter, Mais nous ne devons pas seulement regarder Christ de l'extérieur pour essayer de mimer ou imiter un modèle et essayer de progresser vers lui. L'action principale vient encore une fois de sa part. L'action principale vient encore une fois de sa part et de l'intérieur. Par l'action de son esprit, du Saint-Esprit vivant en nous. Dieu sait tellement se mettre à notre place qu'il connaît tout de nous. Nous connaît mieux que nous. On peut, à juste titre, se sentir nu devant lui. Tout est à nu et à découvert à ses yeux, dit le verset 13 de notre passage. Oups. C'est une image, évidemment, tout nu. Ça ne se veut pas intrusif ou malsain de la part de Dieu, juste une preuve de sa parfaite empathie. Réagissons-nous comme Adam et Ève après la chute, voulant nous cacher du fait de cette mise à nu, avec une mauvaise honte devant notre Créateur, et voulant cacher les mauvais côtés de ce que nous sommes? Ou au contraire, réagissons-nous conscients de son amour de Père, en nous mettant pleinement au bénéfice d'une communion et d'une relation étroite et renouvelée avec lui, pour le laisser agir, pour le laisser tout révéler. La parole sonde les cœurs jusqu'à dans leurs moindres détails, agissant comme une épée acérée qui divise virtuellement ce qui est indivisible. Le sens général de ce verset est clair. Le pouvoir actif de la parole de Dieu atteint les recoins les plus intimes de l'existence humaine, les mettant à nu et les jugeant, non pas pour juste rester sur un constat décevant, ou pour détruire ou condamner, pas si on se place au bénéfice de la grâce accordée en Jésus-Christ, mais pour une œuvre rédemptrice, sanctificatrice, transformatrice, purificatrice. Je ne suis plus le même parce que je laisse Dieu me transformer. Je ne suis plus le même parce que je lui laisse prendre plus de place, toute la place. En tout cas, je sais que c'est ce que je devrais faire. Je sais que c'est ce que je devrais faire. Car ce sera de très loin la meilleure chose qui puisse jamais m'arriver. Je sais que c'est ce que je devrais faire. Ça serait la meilleure chose qui puisse jamais m'arriver. Bon, d'accord, il y a encore un sacré boulot. Encore beaucoup à faire, mais ça ne fait pas peur à Dieu. Alors pourquoi cela me ferait-il peur à moi? Dieu m'élève vers lui, il me met à son niveau. Doucement mais sûrement, fidèlement, patiemment, avec amour et vérité. Les humains ont des capacités limitées et passagères, alors que Dieu le Seigneur est celui qui a tous les droits et tous les pouvoirs, lui qui peut accorder à l'homme ce dont il a besoin, et pour la vie présente, et pour l'éternité, dès à présent. Comment pourrais-je jamais être au niveau de Jésus, le Fils de Dieu? Et comment pourrais-je jamais être à la hauteur dans l'empathie que je voudrais avoir vis-à-vis de mon prochain? Empathie. Certainement quelque chose qui est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Mais ça démarre vraiment par le désir, le bon désir, la bonne impulsion de vouloir aimer mon prochain, de vouloir laisser Dieu me transformer en déversant son amour pour moi, pour que je puisse le transmettre à mon prochain. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres, disait Jésus. Voyant les autres régler des problèmes, fais-je l'effort de me mettre à leur niveau? Fais-je l'effort de me mettre à leur niveau? Quelle est mon empathie? Est-ce que j'essaye de les comprendre? Ou suis-je un dispensateur de pieuses banalités? J'aurais aimé en dire plus sur cette partie, plus pratique, d'exercice de l'empathie les uns envers les autres, mais l'heure tourne. J'ai trop développé la première partie du message, mais comme l'exemple de Christ est le point de départ indispensable, ça me paraissait nécessaire justement. Et puis peut-être que je ne suis pas encore assez doué en empathie pour pouvoir en parler longuement. Je prie que le Seigneur m'aide à progresser. C'est tellement une partie essentielle de nos vies chrétiennes pour qu'elles soient épanouies, vivantes, consistantes et cohérentes, et un peu utiles peut-être. Puisse le Seigneur continuer à nous y aider, non seulement comme un commandement que nous avons reçu de lui, mais surtout comme un privilège à vivre et à partager. L'apôtre Paul écrivait en 1 Thessaloniciens, verset 4, chapitre 4, verset 9, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Vous avez vous-même appris de Dieu. Pardon, j'étais absent à quelques cours ou j'étais distrait, et j'ai encore tellement besoin d'apprendre. Seigneur, j'ai besoin que tu m'instruises. Apprends-moi encore à aimer. Oui, il y a longtemps que tu es avec moi et je devrais mieux te connaître. Tu connais mes lenteurs. Merci de ta patience. Instruis-moi. Change-moi. Apprends-moi encore à aimer. Je veux encore, c'est le verset 16 de notre passage d'Hébreu, m'approcher avec assurance de ton trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans mes besoins et peut-être secourir un peu les autres dans leurs besoins. Pour conclure, n'ayons pas trop de complexes, mais persévérons. Oui, Jésus-Christ est devenu semblable aux hommes, parfaitement lui, mais pour nous, notre ressemblance à lui est encore en cours de perfectionnement. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Nous serons semblables à lui. Alors patience et persévérance. Patience et persévérance. Amen. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, je ne suis pas toujours attentif à ce que tu veux m'apprendre. Je suis aussi tellement souvent tenté et je n'arrive pas à résister. Mais comme tu m'y invites, je veux regarder à toi. Toi, tu as été tenté en toutes choses, sans commettre le moindre péché. Tu peux m'en comprendre, et à la fois tu peux me donner une solution. Tu peux m'aider à m'en sortir. Tu veux me changer, tu veux m'aider à grandir. Tu veux m'aider à mieux t'aimer, à accepter ton amour, pour pouvoir après, et en parallèle, le partager autour de moi. Merci pour ta patience, merci pour ta fidélité. Merci parce que je peux venir avec assurance devant ton trône de grâce. Merci pour ton œuvre en moi, pour tout ce que tu m'apprends, tout ce que je découvre, et je me réjouis de te découvrir toujours davantage. Que pour chacun d'entre nous, ça soit aussi une envie qui nous guide jour après jour, un désir, un bon désir de creuser davantage dans ta parole et découvrir qui tu es, tout ce que tu fais, quel Dieu merveilleux tu es. Je te loue, je te remercie Seigneur pour tous tes bienfaits. Et c'est vrai que je pourrais m'apitoyer sur mon sort et quand tu mets à nu toutes mes carences, toutes mes mes défauts, tout mon péché. Il y a de quoi rester paralysé. Mais toi, tu veux pas ça. Tu nous tends la main, tu veux que on progresse, tu pardonnes, tu transformes, tu purifies. Merci pour cela, merci pour ce formidable plan de vie que tu as pour nous et pour nos contemporains aussi, pour nos proches, pour nos amis, pour nos voisins, pour les membres de nos familles qui ne te connaissent pas encore. Je te prie, Seigneur, parle à leur cœur aussi. Révèle-toi, qu'ils puissent aussi être transformés et devenir semblables à toi. À toi toute la gloire. Toi, Dieu d'amour, éternel, tout-puissant, créateur, mais aussi mon Dieu, mon Père, mon ami. Amen.